Bien, nous allons lire dans le livre de l'Exode. On pourrait allumer l'électricité, là, oui, on verrait mieux. Merci. Livre de l'Exode. Nous lirons au chapitre 2, à partir du verset 1er. Exode, chapitre 2, verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, » lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. « Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? « Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles, elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Reuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le, pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, « car, dit-il, j'habite un pays étranger. Amen. » Voilà l'histoire de Moïse, tout au moins, dans la première partie de sa vie. Sa vie se décompose en 3 parties, chacune de 40 ans. Jusqu'à 40 ans, donc, il va être là, dans le palais du Pharaon, comme le fils de la fille de Pharaon. Puis, ensuite, il va être berger au service de son beau-père, dans la base du massif du Sinaï. Et puis ensuite, à 80 ans, sa mission va commencer jusqu'à 120 ans. Vous voyez, trois périodes de 40 ans chacune. Dans la première partie du récit de l'Exode, que nous n'avons pas lu, mais vous la connaissez, je n'en doute pas, nous voyons là simplement que le roi d'Égypte avait changé depuis Joseph, bien sûr qu'il y avait eu des changements, et ce roi prend des mesures à l'égard du peuple d'Israël qui sont évidemment très contraignantes et surtout très inhumaines à l'égard des enfants. Il s'aperçoit que le peuple s'augmente considérablement, les naissances sont très nombreuses, les Égyptiens eux-mêmes s'en inquiètent, et le roi ordonne de faire mourir les enfants mâles. Mais il nous est dit que les sages-femmes n'obéissent pas au roi. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi agi ainsi, avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. » C'est-à-dire leur famille. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » C'était un moyen, évidemment, d'arrêter complètement la procréation, l'augmentation du peuple hébreu. En somme, la mère de Moïse s'était trouvée devant un terrible problème. Elle ne savait pas que Dieu avait un dessein pour l'enfant qu'elle venait de mettre au monde. Pendant 3 mois, elle peut l'allaiter clandestinement, mais ensuite cela devient précaire. Alors elle écarte le danger en prenant un risque, bien sûr. Il s'agissait d'une femme de foi. On dirait aujourd'hui peut-être une femme de tête, moi je dirais une femme de foi, parce que la foi peut donner de la tête aussi, n'est-ce pas, peut donner de la sagesse, de la réflexion, et conduire à une solution approuvée de Dieu, et en tout cas excellente pour les conséquences par la suite. Donc, elle écarte le danger en prenant un risque, que nous pouvons appeler le risque de la foi. Seulement, attention, ce risque de la foi, elle le prend sur la base d'une direction de Dieu. Elle le prend sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Elle ne le prend pas d'elle-même. Quelquefois, dans l'Église, n'est-ce pas, il y a des personnes qui veulent montrer leur foi ou agir, pouvoir se dire à eux-mêmes qu'ils sont des chrétiens de foi, et puis ils s'embarquent dans toutes sortes de choses qui n'aboutissent pas, évidemment, à de bons résultats, au contraire, tout simplement parce que ils n'ont pas suivi une direction de Dieu. C'est très bon d'avoir la foi, mais à condition de suivre une direction de Dieu, d'en être sûr. Suivre la parole de Dieu, et encore est-il qu'une parole de Dieu prise dans les Écritures doit être actualisée par l'Esprit de Dieu. Attention, on ne prend pas une direction en disant que je l'ai tellement vu faire cela d'une façon souvent même catastrophique, que vraiment c'est quelque chose sur quoi il faut attirer l'attention. On saisit quelque chose, on saisit une parole, oui, on saisit une parole dans l'écriture, et puis on dit, voilà, ce matin, j'ai eu cette parole, ou j'ai lu cette parole, ou en ouvrant ma Bible, comme ça, là, la page qui s'est présentée avait ce verset, tel verset, alors voilà ce que je vais faire, voilà ce que j'ai fait, etc., etc. Bon. C'est beaucoup trop léger, ça, n'est-ce pas? C'est pas ça. Le diable aussi a demandé au Seigneur Jésus de suivre des versets de la Bible, n'est-ce pas? Il lui a dit, il a cité la Bible, il a dit, il est écrit. Et le Seigneur ne l'a pas écouté. Pourquoi? Parce que une parole des Écritures, je trouve ici la confirmation de ce que je viens de vous dire, une parole de l'Écriture ne peut se prendre et servir de direction que si vraiment on en a l'inspiration. Une parole de l'Écriture doit donc être l'objet d'un accomplissement par la foi, mais sous la direction de l'Esprit. On ne peut pas prendre la parole sans l'Esprit. Il faut les deux. Il faut la parole. Il est certain que par les Écritures, Dieu peut nous guider, mais alors là, nous en aurons intérieurement une conviction réelle. Et puis nous prierons, n'est-ce pas? Prierons pour que cette conviction soit bien assise. Voilà. Eh bien là, donc, cette femme a pris un risque. Les sages-femmes aussi ont pris un risque. Elles ont même assorti ça d'un petit mensonge. Elles ont dit, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. C'était peut-être vrai de temps à autre, mais ça ne devait pas être une généralité quand même, n'est-ce pas? Elles ont commis là, évidemment, un certain mensonge. Mais on voit que Dieu n'en tient pas compte et les a bénies quand même. Je ne vais pas épiloguer sur cette question-là. Je l'ai traité il n'y a pas bien longtemps sur différents textes. Les jeunes avaient relu bien des passages de l'Ancien Testament et ils s'étaient aperçus qu'il y avait beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Un tas de gens mentaient. Même Élisée. Ils avaient trouvé des mensonges chez Élisée. Alors, ils étaient étonnés. Alors je suis allé leur faire quelques messages sur le mensonge en prenant tous les cas qu'ils avaient rencontrés. Alors là, n'est-ce pas, Dieu ne tient pas compte de cela pour tout simplement des raisons de temps et de circonstances, et des raisons surtout de cœur, concernant le cœur de la personne, n'est-ce pas? Rahab, par exemple, elle aussi, elle fait un gros mensonge, mais dans l'état où elle était, elle ne pouvait pas agir autrement. Elle n'était pas, si vous voulez, on dirait aujourd'hui, convertie. Hein? Seulement, elle a cependant la foi, elle a la crainte de Dieu, et plus tard, il est à penser qu'elle n'a pas continué à user du mensonge. Donc ici, les sages-femmes, elles aussi, vous voyez, sont bénies parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu et elles ont pris un risque. Moïse, donc, à 40 ans, lorsque il vient vers ses frères. Devenu grand, il se rendit vers ses frères, au verset 11, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Jusqu'à cet âge, il n'a pas vécu sa vie. Il a vécu dans le luxe, dans la magnificence des palais royaux. Il a été instruit comme un prince d'une science qui était déjà assez importante, assez développée, mais où Dieu n'était pas. La science des Égyptiens était absolument exclusive de toute révélation du vrai Dieu. Les satisfactions humaines ne lui ont pas manqué. Il a pu en jouir, peut-être, en profiter jusqu'à 40 ans. En somme, jusqu'à cet âge-là, il puisait aux sources du monde. Mais, je répète, il vivait une vie qui n'était pas sa vie. Chers amis, nous avons fait cela aussi. Attention de maintenant être bien en marche dans une vie qui soit la nôtre, c'est-à-dire celle que Dieu veut pour nous. Celle que Dieu veut pour nous. Attention, dans la famille chrétienne, il peut y avoir aussi des erreurs de ce genre. On peut quelquefois, à soi-même, se donner une direction, s'engager dans une vie qui, évidemment, sera corrigée de bien des choses, mais qui ne sera pas la vie que Dieu veut que nous vivions. Et nous serons toujours mal à l'aise. Comme Moïse, vous le voyez, est mal à l'aise. Et le conflit intérieur éclate à 40 ans. Pour être heureux, donc, l'homme doit retrouver la vie à laquelle il est destiné. Doit retrouver la vie à laquelle il est destiné. Ça, c'est général. Il faut bien prendre garde à cela. Ce n'est pas notre conception qui importe. Ce ne sont pas nos préférences. Il faut chercher à être bien dans la vie que Dieu a pour nous. Et la vie qu'il a pour nous est peut-être très différente de celle que nous pourrions concevoir. En somme, l'homme est mal à l'aise lorsqu'il est dans la copie de la vie d'un autre, comme Moïse était dans la copie de la vie d'un prince égyptien. Il en a goûté peut-être les avantages pendant pas mal d'années, mais ensuite il s'est senti mal à l'aise. Peut-être même s'est-il senti mal à l'aise pendant tout ce temps. La vie est un don de Dieu, il ne faut pas l'oublier, et notre existence sur la terre est également l'objet d'une volonté divine. Dieu a un plan pour chacun de nous. Je pense que vous connaissez des versets où cela est exprimé, par exemple dans Jérémie chapitre 10 et verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Vous voyez, c'est clair, c'est net, et c'est général. Hein? La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Il peut se donner une voix, c'est-à-dire s'engager dans une vie, mais si elle n'est pas celle que Dieu veut, a voulu pour lui, il ne sera pas bien. Il aura toujours des problèmes. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Dans le livre des Proverbes aussi, au chapitre 16 et au verset 1er, nous lisons « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme ». Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et nous avons aussi au chapitre 20 des Proverbes et au verset 24, « Car c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix ?» Hein, c'est ça, c'est que l'homme ne comprend pas toujours. Et si nous sommes hommes et femmes de foi dans l'Église, nous nous appliquerons à bien comprendre. Le Seigneur Jésus a insisté là-dessus. Comprenez donc. Comment vous ne comprenez pas? Il faut comprendre. Ah, comprendre avec un discernement spirituel. Hein? Ce n'est pas le fait des personnes qui ont l'esprit obtus. Hein, et qui, par exemple, se servent de la Bible beaucoup en ne retenant que le sens tout premier, littéral, et font de la Bible souvent un code, un rassemblement, une collection de préceptes, de règles, préceptes sur règles, préceptes, règles sur règles. C'était déjà dénoncé par Ésaïe, ça. Alors, il y a de l'intelligence, il y a de l'intelligence. Peut-être un de ces jours parlera-t-on particulièrement de l'intelligence. Et voici que Moïse se rend vers ses frères. C'est de ce côté-là qu'il se sent attiré. Mais cela va provoquer des changements brusques et radicaux dans sa vie. Cela va provoquer d'abord une rupture avec l'Égypte. Lui, devenu prince, il va devoir rompre avec l'Égypte. Mais, chers amis, cela encore comporte une leçon pour nous tous. N'y a-t-il pas, en effet, une rupture à l'amorce de toute marche avec Dieu quand nous quittons la vie qui n'était pas la nôtre, hein, que Dieu a laissé, peut-être, nous a laissé suivre pendant un certain temps, mais quand arrive le moment de la rencontre avec le Seigneur, alors là, peut-être même après la conversion, notez, c'est pas toujours au moment de la conversion. Quelquefois, il peut y avoir conversion, puis on continue encore un peu, mais au bout d'un certain temps, Dieu nous montre que ce n'est pas du tout dans cette vie-là qu'il nous voulait. Alors, il y a une rupture. Il y a toujours une rupture. D'ailleurs, que signifie Église? Église vient d'ecclésia, c'est-à-dire c'est un mot qui comporte un pluriel général, ecclésia, ceux qui sont appelés hors d'eux, c'est-à-dire hors, non pas nécessairement de leur maison. Littéralement, au début, c'était cela. Quand on rassemblait le peuple d'une ville à la porte de la ville, où était la place publique, alors là, on disait qu'il y avait une ecclésia, un rassemblement des gens appelés hors de leur maison. Mais l'Église a un sens, évidemment, beaucoup plus large, dégagé de ce sens premier, et l'Église, c'est donc la réunion de ceux qui ont été appelés hors de ce qu'ils étaient, hors de leurs pensées, hors de leurs préférences. Ils sont appelés hors, ecclésia. N'oublions jamais cela. Et par conséquent, par le moyen d'une rupture. Nous avons bien des exemples dans l'Écriture cette rupture. Peuple élu, l'Église est le peuple élu, appelé hors d'un mode de vie où régnait l'ignorance et l'aveuglement. Répondre à l'appel de Dieu, cela nécessite de sortir de soi-même. Pour Abraham, Dieu lui dira, sors donc de ta tente. Et tu es dans ta tente là, et tu ne vois rien. Tu ne vois rien que ton petit cadre habituel là. Mais sors et viens dehors, et regarde les étoiles, regarde l'infini, là. Dieu jette l'âme d'Abraham en plein infini. Regarde les étoiles et compte-les si tu peux y arriver. Compte les étoiles, voilà. Eh bien, ma promesse, c'est que je te donnerai une postérité qui sera comme les étoiles du ciel qu'on ne pourra pas compter. Donc, vous voyez, sortir de son confinement, sortir du cadre de ses pensées habituelles, de ses obstinations surtout, parce que l'homme est très obstiné, sortir de tout cela, c'est vouloir alors suivre le Christ étant libéré de toute chaîne. Les chaînes ne sont pas toujours des chaînes des chaînes mauvaises que le diable a forgées, dont il nous a liés, mais les chaînes, c'est ça. Les chaînes, c'est tout ce que nous avons nous-mêmes rassemblé, tout ce à quoi nous sommes attachés, c'est ça, l'enchaînement. Évidemment, il peut y avoir un enchaînement mauvais en plus, n'est-ce pas ? Mais enfin, l'enchaînement habituel, c'est bien cela. Et Moïse obéit à une injonction intérieure. Il sent intérieurement, Dieu lui parle intérieurement, il fallait qu'il retourne à son peuple. Et là, arrivé près des Hébreux, il est témoin des pénibles travaux de ses frères. Donc, leur existence était déjà sur son cœur. Il est indigné parce que il constate qu'un Égyptien frappe un Hébreu, l'un de ses frères. Alors, Moïse découvre là que il ne pense pas, lui, il ne voit pas comme un Égyptien. Il n'a pas la mentalité de l'Égyptien. Vous voyez, il n'est pas. Il découvre là qu'en réalité, il était Égyptien d'une façon factice, mais il n'avait pas la pensée, le cœur d'un Égyptien. Mais il a le cœur vraiment d'un Hébreu. Entre l'Égypte et lui, alors un fossé soudain se creuse. Courroucé, il se jette sur l'Égyptien, après avoir bien vérifié qu'on ne le voyait pas, il tue l'Égyptien et cache son cadavre dans le sable. En somme, la réaction de Moïse, qui constate qu'il n'a pas du tout le cœur et la mentalité de l'Égyptien, mais qu'au contraire, il a le cœur d'un Hébreu, sa réaction, c'est quand même la réaction de violence. Réaction de violence. Ah. Le lendemain, il revient, et que voit-il ? Eh bien, le lendemain, il voit deux Hébreux, c'est-à-dire deux de ses frères, qui se querellent. Et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme lui répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur. Et il dit, « Certainement, la chose est connue. » Et en effet, le Pharaon devait l'apprendre. Le lendemain, en somme, Moïse voit encore la méchanceté s'exercer. Mais non pas du fait d'un Égyptien contre un de ses frères, entre deux de ses frères. Et là, déjà, n'est-ce pas, il est saisi. Mais il s'aperçoit qu'entre les Hébreux, il y a aussi de l'animosité, de la haine, de la dispute, de la violence. Ce n'est pas seulement l'oppresseur, l'ennemi, mais entre ses frères aussi. Et cela est pour lui une constatation, certes, pénible. Ainsi, partout la violence. Et Moïse, qui peut réfléchir et vraiment s'analyser lui-même, se regarder lui-même, Moïse constate qu'il a lui aussi la violence et que le meurtre est dans son propre cœur. Le meurtre est chez l'Égyptien. Le meurtre est dans les frères hébreux, mais le meurtre est en lui aussi. Le meurtre est en lui. Il a peur et il s'enfuit. Alors, en somme, Moïse va constater qu'il n'est pas capable de sauver son peuple. Il n'est pas capable. Il est incapable. de sauver son peuple. Et chers amis, vous savez que, ça c'est une constatation que tout le monde devrait faire, que en tout cas devrait faire tout homme, tout chrétien qui veut servir, il faut qu'il constate qu'il n'est pas meilleur, comme disait Élie, hein, je ne suis pas meilleur que, je suis pas meilleur. Il faut qu'il fasse cette constatation, parce que s'il part dans le service de Dieu avec l'illusion qu'il apporte, lui, des choses, des éléments, des capacités, des possibilités, des sentiments, une force supérieure à ceux qu'il va sauver, eh bien, il va vers un fiasco. Il va vers un fiasco, parce que là, il ne saura pas s'appuyer sur Dieu. Il ne saura pas demander au Seigneur vraiment la puissance de son esprit. Ainsi, Moïse a peur et s'enfuit. Le meurtre et la peur, voilà tout ce qu'il trouve en lui. Il n'y a pas autre chose, il est un humain comme les autres, il n'y a que ça en lui. L'homme naturel, avec ses bons mouvements, avec ses bonnes intentions, mais cet homme ne peut pas sauver les autres. Il le constate. Et chers amis, moi pour moi je l'ai constaté. Et je pense que, je le répète, tout celui qui veut s'engager dans le service de Dieu doit constater cela. Je ne le peux pas. Je n'ai pas en moi les capacités. Et même si j'avais peut-être tendance à plus de douceur que d'autres, ce n'est pas avec ça que je pourrais sauver les autres. Il me faut un équipement qui me vienne du Saint-Esprit. Moïse a tenté de faire justice par ses propres moyens, selon ses impulsions. Et à quoi a-t-il abouti? Il a abouti à ajouter une faute que le Pharaon apprend. Il a ajouté une faute et une cause de dureté à celle qui déjà désolait son peuple. Voilà. Il augmente le fardeau de son peuple. C'est tout ce qu'il fait. Vous vous rendez compte, quand nous voulons agir par nous-mêmes, ce que nous faisons dans l'Église, nous augmentons les difficultés, nous augmentons la charge, le fardeau, parce que nous avons voulu agir par nous-mêmes, selon peut-être un bon mouvement, des bons sentiments, mais non pas avec la puissance du Saint-Esprit et les directions de Dieu. On ne peut pas devenir l'auxiliaire de Dieu sans passer par les expériences qui changent le cœur et qui rendent possibles les actions de l'Esprit. En somme, Moïse est humilié, et son humiliation, il va la savourer pendant 40 ans. Je ne dis pas que ce sera aussi long pour nous, parce que notre vie ne le permettrait pas, mais enfin, il va savourer son humiliation pendant 40 ans. Donc, la parole dit bien, il faut être une nouvelle créature. L'essentiel, nous dit la parole, c'est d'être une nouvelle créature. Si nous ne sommes pas cette nouvelle créature, nous ne ferons rien de bien. Et voici que Moïse s'arrête près d'un puits, c'est-à-dire près d'une source d'eau vive. Son corps et son esprit vont pouvoir se désaltérer. Il va connaître là, pendant 40 ans, une longue solitude. Il est proscrit en Égypte et il va désormais vivre, apprendre à vivre dans la dépendance de Dieu. Il s'est aperçu que l'Égypte est un roseau qui perce la main, qu'il ne peut pas s'accommoder de ce monde, et il vit dans la dépendance de Dieu. Il est coupé de son passé, il est conscient de son impuissance à faire le bien. Et sans doute, pendant ces 40 ans, il ne voyait pas sa mission. Il n'apercevait pas le plan de Dieu pour lui. Il savait qu'il y avait toujours en lui, certainement, des montées d'intention. Il y avait en lui des poussées qui lui suggéraient qu'il fallait peut-être qu'il fasse quelque chose, mais Dieu n'avait pas parlé. Il faudra attendre le buisson ardent pour que Dieu se manifeste devant lui, lui parle et lui donne très exactement sa mission. En somme, là, à 40 ans, Moïse commence à être un homme. Il commence à être un homme faible et séparé, dépendant de Dieu, vivant dans l'humiliation. Il va devenir une force de Dieu. Dieu va le préparer pour qu'il devienne une force de Dieu, non pas une force d'homme, mais une force de Dieu. Rappelons-nous ce que dit Zacharie, non par force et par puissance d'homme, sous-entendu d'homme, mais par mon esprit. Toutes ces choses, même la construction du temple en pierre, la reconstruction, tout cela ne pouvait se faire que par l'esprit de Dieu. Tout doit être subordonné à l'esprit de Dieu. Et alors ensuite, Moïse, je ne vais pas commenter la suite du livre de l'Exode, vous la connaissez, le buisson ardent, c'est extrêmement intéressant, c'est une phase qui est très riche en leçons pour nous, en enseignement. Mais je voudrais simplement dire ceci, c'est que quand Moïse sera devant le buisson ardent, déchaussé, il aura été obligé d'enlever ses souliers, il est en présence de l'Éternel qui va pour la première fois lui dire son nom. Tu diras que tu viens de la part de celui qui se nomme Yahvé, quoique ça ne se prononce pas bien en hébreu, mais Yahvé, c'est-à-dire de la part de celui qui se nomme « Je suis celui qui est ». « Je suis celui qui suis ». Mais enfin, « Je suis celui qui est », c'est plus compréhensible. Voilà, « Je suis l'Éternel », on a traduit ça par « l'Éternel ». Ça figure des milliers de fois dans l'Ancien Testament, et c'est traduit par l'Éternel. « Je suis celui qui est ». Et voilà le nom que Dieu va confier à Moïse. Et Moïse, devant le buisson ardent, n'est pas encore le serviteur qu'il faut à Dieu. Pas encore. Et là, il a des hésitations. D'abord, il a peur encore. Vous voyez, la peur ne l'a pas encore tout à fait quitté. Il a peur. Dieu lui dit d'aller parler au Pharaon. Au Pharaon. Il se rappelle que lui, il est proscrit. Il se rappelle que malgré sans doute un changement sur le trône, un changement de titulaire du trône, malgré tout, l'histoire n'est pas si vieille, 40 ans, on se souvient de ce qu'il a fait, il a peur, et puis, malgré tout, il connaît la puissance du Pharaon. Et alors, cela ne le rassure pas. Et puis, il ne sait pas parler. Il avoue qu'il ne sait pas parler. Et il a la bouche embarrassée. Il ne sait pas parler, tout simplement, parce que pendant 40 ans, il n'a pas fait de discours à ses brebis, à ses moutons. Hein. Et alors, il n'est pas bien exercé à la parole, évidemment. Hein. Il pensait peut-être beaucoup, mais il parlait certainement peu. Et alors, il a ses réticences, au point que il dit au Seigneur, « Oh, non, 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 Seigneur, non, non, c'est pas, faut pas que tu m'envoies, non, 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 ne m'envoie pas. » Et il provoque la colère de Dieu. Il provoque la colère de Dieu. Et pourtant, Dieu, c'est le moment Regardez comme c'est extraordinaire. C'est le moment de Dieu. Dieu va le qualifier. Dieu va lui donner tout ce qui est nécessaire, l'équipement nécessaire, l'équipement spirituel nécessaire, la capacité nécessaire, la compréhension nécessaire, la sagesse nécessaire. Il va les lui donner. Moïse hésite encore et Dieu va lui dire, eh bien, puisque tu ne sais pas parler, Aaron, ton frère sera ton prophète, il va parler à ta place, et toi, tu prendras la place de Dieu. Tu vas prendre la place de Dieu. Et toi qui seras Dieu, lui, il sera ton prophète. Et toi, tu vas prendre la place de Dieu pour la mission, bien sûr, que Dieu lui confie. C'est extraordinaire. Mes chers amis, savez-vous que dans l'Église, c'est toujours ce que Dieu veut faire. Et si nous prenons bien garde à tout ce qui est écrit, nous voyons bien que nous avons, si nous sommes engagés, attention, si nous sommes dirigés dans un certain service, vers une certaine tâche, à chacun sa tâche, eh bien, le Seigneur nous donnera les capacités nécessaires, les dons nécessaires, mais il voudra que nous prenions la place de notre Maître Jésus-Christ pour les missions qu'il nous confie. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit mon Père. Celui qui m'écoute, écoute mon Père. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et il m'est arrivé, chers amis, de voir vraiment la réalisation sensationnelle, extraordinaire de cela. Je me rappelle surtout avec un frère la visite que j'avais faite dans une ferme un peu isolée. Des circonstances nous avaient guidés, enfin c'était le Seigneur qui nous avait guidés là. Et quand nous sommes arrivés dans cette ferme où nous ne connaissions absolument personne, nous avons été accueillis à la porte, mais comme l'aurait été le Seigneur Jésus. On nous a regardés, nous avons dit peu de choses, et puis on nous a fait entrer, on nous a fait asseoir, on nous a fait des honneurs, et puis surtout, on nous a écoutés, Et c'était le moment où le Seigneur voulait apporter à ces gens de la ferme, apporter quelque chose. Il y a eu en effet 3 conversions d'un seul coup dans cette ferme. La trois conversions, parce que nous n'allions pas, et pas nous qui avions décidé, nous avions été guidés là tous les deux, n'est-ce pas? Et puis nous arrivons là, nous sommes reçus, mais comme le maître. Nous parlions, on ouvrait la Bible un peu, on parlait, on nous écoutait, on buvait nos paroles. C'était extraordinaire. Là, j'ai eu vraiment la révélation de ce que signifiait ce qu'avait dit le Seigneur. Celui qui vous écoute, m'écoute. Mais il faut que ce soit dans les conditions, évidemment, d'une direction de Dieu qui est suivie. Voilà, mes amis, ce que nous pouvons dire déjà à propos de Moïse et les enseignements que nous pouvons tirer de cette partie de sa vie et qui s'ouvre à l'âge de 40 ans. Tout cela n'a pas changé, l'homme naturel est resté l'homme naturel, et les actions de Dieu restent ce qu'elles étaient. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dit du Seigneur Jésus, mais c'est dit de Dieu aussi, bien entendu. Et Dieu veut toujours se servir des hommes, se servir de nous, à condition que nous sachions attendre le moment, l'écouter, comprendre ce que Dieu nous dit et comment il va nous engager, recevoir de lui cette puissance et ces dons qui nous sont indispensables. Chers amis, ce n'est pas l'homme avec ses capacités si l'homme en a beaucoup des capacités obtenues par le moyen de l'étude de différentes choses, ces capacités-là, elles sont plutôt gênantes qu'utiles. Hein? Elles vont plutôt entraver le service de Dieu. Il faut pouvoir faire abstraction, comme l'apôtre Paul l'a fait. Moi, je regarde tout cela comme une perte, disait-il. Oui, il était hébreu né d'hébreu, il avait été élevé au pied de Gamaliel, hein, mais je regarde tout ça comme de la boue, comme une perte, à cause de Christ. Et alors, voyez-vous, il faut que nous soyons dans les mêmes dispositions pour que Dieu puisse nous utiliser comme il l'entend. Et ce qui compte dans le service de Dieu, que ce soit le témoignage, vous voyez, je parle donc pour tous, je ne parle pas seulement pour ceux qui sont appelés à un ministère, mais pour tout le monde, dans le témoignage ou dans le ministère, ce qui compte, ce qui importe, ce n'est pas l'homme avec sa valeur, même s'il en a une, hein, c'est le charisme, le don, si vous voulez, et le charisme, l'équipement. J'appelle quelquefois l'équipement, le charisme. C'est ça qui importe. C'est le charisme que Dieu confie à l'un, à l'autre, selon le choix du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne aux uns et aux autres les dons qu'il a choisis lui-même, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est le charisme qui est opérant. C'est ça, pas autre chose. Et l'homme qui s'imagine que parce que c'est lui, parce qu'il a de la connaissance, parce qu'il a toutes sortes d'avantages, il va pouvoir faire mieux que les autres, il se trompe, il fera moins bien, c'est le charisme, uniquement le charisme qui vient de Dieu, ce que Dieu a voulu donner à tel ou tel de ses serviteurs, c'est ça qui va être opérant, pas autre chose. Que le Seigneur nous permette par conséquent de nous confier à lui pleinement. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Dieu de paix, nous voulons, Seigneur, retenir ce matin de cette méditation de ta parole que l'homme naturel ne peut pas te servir, tu ne peux pas être servi par la chair, tu ne peux être servi que par l'esprit. Or, tu as mis en nous un esprit nouveau, un cœur nouveau, tu as régénéré notre esprit et tu veux faire en nous venir les dons qui nous sont nécessaires pour le témoignage, pour le service de Dieu. Ô Dieu de paix, veuille, Seigneur, ranimer le don que nous avons reçu de toi. Veuille que nous comptions sur ce don, sur les capacités que tu nous donnes toi-même, ô Dieu de paix. Amen.